Cascodeur Podcast, épisode 263, le maillot jaune du salon. Enregistré le 10 septembre 2021. Bonjour et bienvenue au Cascodeur. Nous sommes dans l'épisode 262, un épisode de nouvelles qui m'accompagne Arnaud et Antonio.
Coucou les gens.
Ouais. Bonjour tout le monde.
Et voilà, nous sommes trois et nous avons... Bon, en fait, en même temps, ça fait deux mois qu'on n'en a pas fait, donc ça explique, mais il y a pas mal de news, hein, pas mal d'infos.
C'était six semaines. Sept.
Alors, en août, il n'y avait pas grand-chose. En août, on a hésité à le faire, mais il n'y avait vraiment pas grand-chose. C'est arrivé là début septembre.
Bah, il y avait déjà pas nous. Hein ?
Ouais. N'était pas là, ça c'est vrai que ça n'aide pas.
Alors, on va se lancer. Bah, vous connaissez la chanson. On va commencer du plus bas au plus haut de la JVM et de l'écosystème, en gros. Hein. Après, c'est des jugements de valeur, mais voilà. Alors, le langage et la JVM. Eh bien, déjà... Java 17 va sortir la semaine prochaine.
C'est la prochaine LTS, effectivement.
Il y a plein d'articles à droite, à gauche, que l'on n'a pas collecté. Donc, on vous laissera cet exercice. Mais effectivement, c'est la grande annonce. Donc, Java 17, pour info, c'est comme Java 11. Donc, c'est une long-term support. Donc, c'était l'équivalent des versions quand on est passé de 5 8 à 6 11. Ou de 6 à 7, etc. Voilà. Donc,
on a fait un gros épisode, il y a eu un épisode d'interview.
Oui, absolument. Je ne sais plus si c'était 16 ou 17, on a parlé des deux. Je ne me rappelle plus bien. En même temps, non. Voilà, il y avait un épisode d'interview là-dessus. Voilà, sinon, Adopt OpenJDK n'est plus, presque.
Longue vie à Adoptium.
Adoptium, alors... Comme c'était trop simple d'avoir un seul nom, ils en ont plusieurs. Donc, Adoptium, c'est le portefeuille dans Eclipse qui s'occupe du JDK. Temurin, c'est la distribution des runtime pour la partie JDK, sachant qu'il y a d'autres choses. Par exemple, la test suite.
Tu dis Temurin, moi j'ai Temurine, non?
Ouais, alors français, anglais. Bon. Temurin. Runtimes.
Temurin.
Donc, grosse test suite, mais qui vient de Adopt OpenJDK. Hein.
Qui porte aussi un drôle de nom, la test suite. Hein. Ils se sont vraiment lâchés sur, la test suite.
C'est un peu tous les X-Men et autres Marvel. Qui
s'appelle AQAVIT. AQAVIT. Bon, voilà.
AQAVIT, mais teste beaucoup quand même.
Eclipse AQAVIT, voilà.
La licence Oracle, donc, c'est un JDK officiel. Nos amis de Adoptium ont décidé de ne pas faire de build OpenG9, qui est la JVM qui a été donnée par IBM, enfin, qui a été open sourcé par IBM, ni de GraalVM d'ailleurs. Donc, ça pose une question, parce que moi, j'utilise, je sais plus quel outil SDK, là, pour télécharger mes machins. Alors, avant, ça venait ça d'Adopt OpenJDK. Donc, maintenant, il y aura une partie d'Adoptium. IBM a créé un truc qui s'appelle Semurin, qui est, en gros,
l'équivalent. Ah, tu vois, tu dis Semurin et pas Semurin.
Oui, ça va. Tu m'as tout foutu dans le, tu m'as tout confuse. Semurin, voilà. Et du coup, il y avait des API pour ce service qui donnait accès au JDK, donc pour les télécharger, avoir la liste, etc. Donc, c'est des nouvelles API au moins dans le nom de domaine, mais elles sont compatibles, rétro-compatibles. Voilà. Et par contre, les anciens builds ne seront pas migrés. Donc, pour les anciens builds, vous allez sur Adopt OpenJDK. Et pour les nouveaux builds, en tout cas de OpenJDK, vous allez sur Eclipse Adoptium. Et puis pour les builds OpenG9, vous allez sur IBM Semurin. Et puis pour GraalVM, vous allez, je sais pas où, chez GraalVM. Voilà, c'est la merde, non? Enfin, c'est plus la merde en gros, quand même.
Mais oui. ASDF, en tout cas, bien la liste des. J'ai vu que moi, j'utilise ASDF pour auto-provisionner mes environnements et switcher de version de Java, etc. Et ils ont bien rajouté la partie Eclipse.
ASDF, c'est le nom dont tu te souviens jamais. Tu dis, ah oui, j'ai une commande qui met à jour plein de trucs. Je ne me rappelle plus.
Exactement. Le truc là qui permet de gérer plusieurs versions.
Et, mais voilà, ouais, donc ASDF, ça ne fait pas que les JDK, mais ça met à jour tout. Brew, c'est ça. C'était un des outils d'épisode.
C'est orthogonal à Brew, c'est complémentaire à Brew. Le gros avantage par rapport à Brew, c'est que ça permet de gérer plusieurs versions en parallèle. Donc, tu peux avoir sur ta machine et switcher facilement entre les versions de GraalVM, Java 8, 9, mm-hmm. 11, 22, ce que tu veux.
Tu parles de quel outil, Arnaud?
SDF. SDF. C'est celui qui permet, c'est un peu comme Brew. Mais c'est limité, il y a beaucoup moins d'outils. Mais par contre, ça te permet de gérer plusieurs versions avec de dire quelle version tu veux utiliser dans tel projet, etc., etc.
Ah d'accord. Mais c'est un SDKman alors ? C'est genre SDKman ?
C'est comme oui, c'est très similaire à SDKman.
Ah d'accord.
Très similaire à SDKman. Tu confonds, Manu, avec TopGrade, qui est un outil qui lui permet effectivement de mettre à jour tout ce que tu veux sur ta machine.
Quelle encyclopédie vivante, cet Arnaud Héritier, quelle encyclopédie voilà, donc,
quand vous avez besoin de mettre à jour, vous demandez à Arnaud et puis...
Je vous donne toutes les commandes que vous avez besoin pour mettre à jour votre machine.
SDKman, ok, merci Arnaud.
Donc, vu que c'est bientôt Java 17, il y a... l'équipe PR d'Oracle a dit aux architectes Java, ça serait bien que vous fassiez des interviews. Donc, il y a eu une interview.
Ouais, de Mark Reynolds, Brian Goetz. Alors, l'autre, c'est Michael Wittstedt, je ne sais pas comment ça se dit, et Ron Pressler. Donc,
voilà. Moi, j'ai pas. Ça ne m'a pas non plus ébahi par la nouveauté ou des perspectives super intéressantes, mais si vous voulez savoir pour eux, voilà. Qu'est-ce qui fait que Java a une bonne longévité, quelles sont les nouvelles fonctionnalités, qu'est-ce qu'ils font qu'ils choisissent une nouvelle fonctionnalité. Donc ça, c'est intéressant, on en a peut-être déjà parlé, mais pour eux, c'est qu'est-ce qui ne peut pas être fait en dehors de la plateforme. Voilà. Donc ils essaient forcément de dire, ben non, mais si ça peut être fait dans une lib et que ça marche bien, on ne le met pas dans la plateforme parce que sinon, elle s'alourdit trop vite. Et après, on est moins flexible dans les choses.
Et justement, il parle de ça. Le projet Valhalla, c'est aussi justement pour rendre la plateforme un peu plus extensible. Il donne l'exemple là du Bfloat 16 et il dit en fait plutôt que de rajouter un nouveau type, on laissera la possibilité aux gens de développer leur type grâce à Valhalla, mais pas le mettre à l'intérieur de la plateforme. Donc, effectivement,
c'est Jack Shaving.
Je ne
veux pas rajouter un type. Si, je vais te faire un outil pour construire des types. Mais en plus, je ne vais pas répondre à ton truc que tu auras quand même.
Donc,
mais ils ont raison là-dessus. Effectivement, peux généraliser, c'est ce qu'on leur demande. Voilà. Après, je suis bloqué en Java 8. Qu'est-ce que je perds? Sécurité, mais ils expliquent que vous perdez probablement de l'argent. Meilleure utilisation mémoire pour un hardware donné, performance, temps de démarrage, etc. Petite discussion autour de Loom versus le reactive programming.
Oui,
donc
intéressant.
Même objectif d'utilisation meilleure du hardware, mais sans être opposé en termes de design à la façon dont a été construit la JVM. Error report, le debug, intégration avec Flight Recorder, c'est les exemples qu'ils utilisaient.
C'est vrai que c'est intéressant. Ils disent vraiment que le réactif, ça bypass des tas d'outils, des tas de trucs. Donc ils disent vraiment, Loom va permettre d'utiliser des millions de threads pour pas cher et donc d'avoir accès à tous ces outils-là. Chose que vous n'avez plus avec la programmation réactive.
Parce que fondamentalement, tous ces outils, ils ont été construits sur la notion de l'enchaînement de mes appels se voit dans la stack. Et comme en réactif, donc c'était un choix arbitraire, mais bon, à l'époque, ça avait du sens. Mais dans une approche réactive, vu qu'on va plutôt arrêter, envoyer un message dans une queue qui va être exécutée pour la suite de l'opération, eh bien, on n'est pas dans la stack, on est ailleurs. Voilà. Donc, d'où le problème. Après, ils pourraient généraliser la notion d'error report et de debug flight recorder, mais ils ont décidé de faire Loom. Donc, ils n'appliquent pas leurs règles.
C'est vrai. Bon,
bref. Voilà. Qu'est-ce qu'ils voient dans le futur? C'était un peu wishy-washy. Donc, Valhalla, Panama. Le tail call récursion peut-être, etc., etc. Donc, il y avait des infos autour de ça. Sinon, il y a une API qui est encore je ne crois pas qu'elle soit stabilisée, mais donc elle est encore en bêta, elle peut changer, qui s'appelle la Foreign API, pour appeler du code qui n'est pas du Java.
Et donc, la JNI, en fait. Hein.
Alors ouais, alors JNI était une solution, JNA en était une autre, et là c'est une troisième qui essaie de coupler la simplicité avec la performance. Et donc ça, c'est un exemple qui en fait intègre Lipsodium avec le en utilisant la Foreign API. Du coup, je trouvais que c'était un exemple pratique de l'utilisation, d'ailleurs par Brice Dutheil, donc qui nous montre un petit peu comment ça s'utilise. Donc, si ça vous titille d'aller voir, c'est un article intéressant.
Donc, la Foreign API, pour celles et ceux que ça intéresse, c'est la JEP 412.
Yes. Quoi de neuf dans Scala 3 ?
Pascal, arrête. En ce moment, en plus, je connais Scala à cause du CFP. Tous les ans, j'ai ma partie de plaisir avec le CFP des votes.
Et bah, t'as qu'à migrer en Scala 3, tiens. Voilà.
Scala 3 est déjà arrivé. Pardon, c'est pas quoi de neuf dans Scala 3, c'est une erreur de ce que j'ai écrit. C'est quoi de neuf depuis Scala 3, parce que Scala 3 est déjà là, mais il y a Scala 3.0.1 et puis Scala 3.1. Donc c'est un petit article qui résume un peu ces nouvelles améliorations. Donc au-delà de la correction de bugs, mais il y a une syntaxe simplifiée pour éviter d'avoir des whiz là quand on fait, je sais plus comment ils appellent ça. Peut-être des traits, mais j'ai pas trop envie de dire des bêtises, mais quand on a un enchaînement de sous-types, voilà, qu'on clarifie. Et puis, l'utilisation d'une annotation expérimentale pour clarifier quelle API est expérimentale versus pas. Voilà. Et dans ce cas-là, 3.1, il y a justement, ils essaient de trouver un peu une solution qui permettrait d'avoir les avantages des checks exceptions qui sont, on les traite, on les gère, mais sans les ennuis qui est, on fait un try et un recatch et un rethrow à l'époque. Donc, si vous êtes jeune, vous ne l'avez pas trop vu, ça. Mais ceux qui ont démarré Java, un peu avant vous, c'était le pattern assez classique. Try l'exception, tu la remets dans une autre ou dans runtime à la fin parce que t'en avais marre.
Tu la log d'abord pour être sûr que ça apparaisse une première fois dans les logs. Après, elle remonte plus haut qu'elle va être reloguée.
Voilà, 6-7 fois, voilà. Des logs qui étaient d'Apache, qui est habitué à des logs plates, ils se retrouvent avec du multiligne.
Je me souviens toujours, lorsque j'enseignais aux arts et métiers, un élève était venu avec un diagramme de classe que des exceptions. Et il y en avait une grosse centaine, quoi. Il était super fier avec les exceptions qui héritaient entre elles et tout, des trucs hyper métiers. Ouais, c'était une autre époque.
Ouais. Donc, j'ai pas été dans le détail, mais Scala 3 essaie d'expérimenter avec des safer exceptions, ce qu'ils appellent, c'est expérimental. Le fait que le compilateur lève des warnings est maintenant plus configurable. Et ils ont rajouté un concept de ce qu'ils appellent le multiversal equality, qui veut dire capacité de comparer deux objets, mais qui sont pas forcément du même type. Donc, typiquement, dans votre implémentation equal d'une classe Java, vous allez tester que c'est la même type d'instance, que c'est la même instance d'abord, ensuite le même type, et ensuite vous allez appliquer sur les champs, faire des comparaisons. Donc, imaginez l'idée où on pourrait comparer un carré avec un rond en termes d'égalité. Voilà. Donc c'est un trait nouveau qui est créé, je crois. Kotlin a 10 ans. J'attendais le pfff de... Ah si, ça y est.
Moi, ça m'a étonné, en fait, quand j'ai vu... déjà 10 ans, la vache.
Ouais, déjà 10 ans.
10 ans et 5 ans de 1-0.
C'est vrai que annoncé en 2011, moi ça m'est, oui, je l'avais pas vu aussi la 10e année, ouais.
Ouais.
Alors là c'est dommage parce que je me souviens avoir vu passer, vous l'avez peut-être vu passer aussi il y a quelques semaines, un article sur les problèmes du langage Java et c'était où on en a parlé sur les casse-codeurs, je m'en souviens plus, flûte, maintenant je suis perdu. Et sur le problème numéro 1 du langage Java, c'est les null pointers. Mais de très très loin, genre 90% des problèmes qu'on a, c'est les null pointers. Et l'article terminé
par Kotlin. C'est pas du bullshit, ça ?
Je sais plus, il faudrait que je retrouve.
Non, mais j'entends, je l'ai vu passer.
Ah ouais, moi, tu l'as vu passer aussi ? Je l'ai pas noté. Flûte.
Est-ce que c'est vraiment le truc qui nous bouffe la vie 90% du temps, les null pointers ?
Alors là, c'était une analyse de Stacktrace, de différents.
Ah, quand un programme crash,
ouais, voilà,
c'est
ouais.
L'exception.
Autant l'amélioration qu'ils ont faite en version, alors je sais plus c'est quoi, 14, 15, 16, là, je sais plus, là, celle qui va permettre justement de savoir d'où est émis le null pointer dans une ligne, puisque c'était le problème de base pour le débugger, c'est que tu savais juste que tu avais un null pointer, telle ligne, machin, mais si tu avais plusieurs enchaînements, bah, tu savais pas ce que c'était. Donc, autant ça, je trouve que c'est super utile, autant à titre personnel, les null pointeurs, c'est vraiment pas le truc que j'ai à débugger fréquemment. Enfin, j'ai non, mais plein là, de problèmes, mais pas des problèmes.
Là, c'était une étude, un truc assez sérieux sur des stack traces. Je sais plus si ça se basait sur Stack Overflow ou je sais pas trop quoi. Et l'article terminé par Kotlin en disant, bah, voyez, le problème numéro un, il est résolu par Kotlin. Ouais.
Enfin, bon, moi, je suis sceptique au final. Et pourtant, j'ai bossé sur les mêmes trucs avec Ceylon, hein, mais voilà, je suis pas sûr qu'en pratique, ça soit le truc qui nous bouffe le plus de temps. Bon, en tout cas, dans l'article, ils expliquent leur philosophie, que c'est pas un programme, un langage théorique, mais qui essaie d'approcher par le pragmatisme les problèmes. Il a 10 ans, il est stable. Par contre, l'approche multiplateforme est encore expérimentale et ils prennent leur temps. Donc, quand on dit multiplateforme, c'est-à-dire qu'ils peuvent compiler en bytecode pour la JVM, ils peuvent compiler, voilà, en WASM, en JavaScript, etc., etc. Et ils ajoutent des features dans la core librairie plus lentement que Java. Alors ça m'a... Je suis resté assis, mais j'étais déjà assis, mais ça m'a un peu surpris, en fait, ce qu'ils disent. En fait, ils prenaient l'exemple de XML qui avait été rajouté, enfin, les mauvais exemples de trucs qui avaient été rajoutés. D'ailleurs, vous vous rappelez Java 6, Dolphin, je crois, ils voulaient rajouter une syntaxe XML, alors qu'on était déjà passé du genre, non, mais XML, c'est bon, on va passer à autre chose. On a failli.
Ouais, c'était la mode.
Ouais. Et donc pour eux, les prochains 10 ans, ça sera le multiplateforme, le langage qui essaie de rester au top, voilà, le programmation réactive et l'immuabilité qui est, pour eux, ils le voient beaucoup utilisé côté front sur lequel ils sont en partie et ils s'attendent à ce que ça descende vers le back.
Et t'as des statistiques justement sur Quarkus Java versus Quarkus Kotlin. Est-ce que c'est beaucoup utilisé ou pas d'un côté back?
Je sais pas, faudra regarder. Ouais, c'est une bonne question. J'avais le Maven Gradle qui était à 80-20 là, il y a un an et demi, un truc comme ça. Encore. J'ai pas regardé Kotlin. Faut regarder là depuis la 2 parce que maintenant on a pas mal amélioré, donc c'est quand même plus. Tu vois, faut enlever le truc expérimental en gros. Parce que sinon, tu compares un peu avec un gros biais.
Alors, eux, sur leur article, ils disent que 18% des développeurs qui développent sur la JVM utilisent Kotlin. Voilà, 18%, ça me paraît beaucoup. Mais bon.
Après, je pense qu'il y a toute la partie mobile qui doit obligatoirement tirer du monde. Ouais. Ça, c'est évident. Mais je me rends pas compte. Après, tous ces sondages-là, ça me semble tellement hors contexte des entreprises. Enfin, pour mon expérience d'avoir vécu plein de grands comptes et de trucs comme ça, il y a tellement de milliers de lignes de code Java. Et puis, ces entreprises-là vont jamais communiquer sur le code qu'elles ont et, que, effectivement, je me rends pas compte si c'est vraiment représentatif ou pas, ce genre de choses.
Alors, ils disent que c'est un report by Snyk. Snyk,
ah, pareil, ouais, je sais toi, pas. Donc c'est des sondages, sondages faits via les réseaux sociaux.
C'était chez J-Rebel avant,
oui. Oui. Ouais.
Donc,
Alors, nous allons passer aux librairies, enfin, framework librairies, ce genre de choses. Mm-hmm. Spring 6 a été annoncé pour quatrième trimestre 2022. Par Jürgen Höller, un des copapas de Spring, est toujours là-bas, enfin, du framework. Et donc, leur objectif, c'est, je crois que dans leur marketing, c'est d'être le framework de la décennie future. Du coup, ça sera Java 17 et plus. Si vous voulez en dessous, vous restez sur Spring 5. Ouais. Ça sera donc Spring 6 et Spring Boot 3, d'ailleurs. Ils vont intégrer Spring Native, de ce que j'ai compris. Ça sera Tomcat 10 et Getty, je sais pas combien, minimum, 9, je crois. Jakarta 9, alors Jakarta, Carte 9 par rapport à 8, c'est les noms des packages passés de Javax à Javax Jakarta. Donc ça va casser les trucs. Je crois qu'ils ont annoncé Hibernate 6 dedans, Ce qui est bien, du coup, maintenant, nous, on a une roadmap pour finir avec Hibernate 6.
Ah, c'est pas mal, ça. Il vous, ouais. Il vous en a même pas parlé.
Non. Et Spring donc 5.3 et Spring Boot 2.7 seront en ce qu'ils appellent la maintenance open source étendue, ce qu'ils avaient fait un peu avec Spring 4 à l'époque. Donc ils se disent, bon, on peut pas prédire le futur, mais c'est ça qu'on cible.
En gros, ils vont faire de la sécurité, enfin de la maintenance de sécurité, enfin maintenance de base et sécurité pendant X temps, et ça va se compter, ouais, en années.
Le temps. Après, la difficulté, c'est toutes les libs dont tu dépends. Est-ce que tu restes sur telle version, tu upgrades,
c'est le problème.
Est-ce qu'ils gèrent?
Ouais, c'est ça.
Voilà. Sinon, Quarkus 2.1 et 2.2 sont sortis pendant que, enfin, entre ces deux épisodes. Attends, donc, le 2.2, c'est une techno d'une version de solidification. Travaille sur l'utilisabilité, sur la doc, bon, généralement corriger des problèmes. Il y a quand même le MongoDB Service Binding, donc intégré pour les gens qui utilisent Kubernetes au Service Binding opérateur. Donc on l'avait pour les bases de données, on l'a pour Kafka, et maintenant on l'a pour MongoDB, donc c'est un des nouveaux qui rentre. Un des trucs intéressants, donc REST Easy en fonction de votre signature de méthode, en fait, va choisir s'il tombe par défaut sur un thread bloquant ou un thread non bloquant. Donc, pour faciliter la transition de REST Easy réactive en venant de REST Easy classique, parce que sinon, on avait des gens qui exécutaient les méthodes sur les mauvais threads et que ça pouvait poser problème, que ça soit dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Mmh. Et après, vous pouvez toujours utiliser explicitement une annotation pour dire ce que vous voulez faire. Voilà, il y a un détail, un blog très détaillé, plus détaillé de Clément Escoffier là-dessus.
Ouais, qui est très très bien. Ouais, un super blog.
Clément ou le blog?
Les deux, mon capitaine.
Donc, et sinon, la 2.1, il y avait les dev services pour Keycloak. Alors, les dev services, c'est on lance Quarkus Dev et puis toutes les dépendances, Keycloak, votre base de données, Kafka, etc., ils démarrent automatiquement. Dans un conteneur dédié pour vos tests et un conteneur dédié pour votre environnement de dev. Et donc là, ils ont rajouté Keycloak dedans. SQL Server réactive à son extension aussi maintenant. Kotlin 1.5 est supporté. Et puis, il y a eu une flexibilité dans la modularité, dans la notion de Quarkus Platform, avec un long blog d'Alexey pour les gens qui sont vraiment focalisés sur Quarkus. Vous pouvez aller lire ça, ça va donner plus de flexibilité à vous en termes de mise à jour et de lien avec des dépendances qui seraient autrement récupérées par Quarkus et pourraient vous bloquer potentiellement. Voilà, ou vous l'imposer. Voilà, et puis vu qu'on est dans tous ces frameworks, Micronaut 3 est sorti. Quelqu'un veut le faire d'ailleurs?
J'ai pas trop regardé, j'ai okay. Juste vu qu'ils avaient... Faire, si non, mais vas-y. Tu parlais tout vas-y. À l'heure de Jakarta. Et ouais. C'est vrai que sur le blog, ils expliquent qu'avec Micronaut 3, ils sont passés sur les packages Jakarta. Donc voilà, au lieu de faire java.atinject, bah, vous faites jakarta.atinject. Idem pour les pre-destroy, post-construct. Ouais. Bon,
d'ailleurs,
voilà.
Ils ne supportaient pas le Java Lifecycle avant. Donc
oui,
là, maintenant, c'est
vrai que
ils le supportent, oui. Mais en plus, c'est Jakarta.
Ouais, ouais, ouais. Donc maintenant, oui, effectivement, ils supportent les pre-destroy, post-construct, pre-destroy, at inject, et puis quelques breaking changes quand même, mais un peu comme à la Quarkus, où ils ont cassé 2-3 trucs, mais pas trop. Voilà, bon, ouais. Après, je vous avouerai que j'ai plus trop suivi Micronaut là depuis.
Sinon, un des trucs importants, c'est que Eric Java n'est plus une dépendance imposée, transitive, qui faisait partie de leur cœur. Maintenant, ils utilisent Reactor, parce qu'en fait, Eric Java, il y a la 3 qui est sortie, et du coup, ils se sont posé la question. Donc, en fait, ils sont partis sur le moteur Reactor. Donc, si vous utilisez explicitement Eric Java, il faut le rajouter en tant que dépendance. Voilà. Après, ils ont des bridges et des choses comme ça. Un truc rigolo, ils ont l'injection qualifiée par le générique des arguments, ce qui est possible puisqu'ils font du build-time, la résolution d'injection de dépendance au build, hein, parce que sinon les génériques ils sont oubliés hein, par Java. Voilà. Si un truc important, il y a introspecté d'avance, a été utilisé pour pouvoir faire de la réflexion sur les classes Java dans GraalVM en compilation native. Maintenant, c'est plus utilisé pour ça, c'est utilisé pour construire le modèle au build time de ces outils de réflexion. Si vous voulez quand même utiliser que GraalVM puisse accéder à cette classe-là, il faut utiliser Reflective Access maintenant. Ils ont fait des améliorations, mais du coup, ça vous impacte vous en termes d'utilisation. Voilà. Ah si, il y a, si vous n'utilisez pas le Maven, le plugin Maven de Micronautes, faites attention parce qu'ils ont bougé un truc qui était de la phase de compilation avec le AST, etc. Non, pas AST, qu'est-ce que je dis comme bêtise. L'Annotation Processor vers le plugin lui-même. Donc, si vous ne l'utilisez pas, il faut, je crois que c'est au niveau des ressources, il faut les déclarer dans GraalVM native. Voilà, donc il y a des choses comme ça. Et un truc cool, c'est qu'ils utilisent Open Rewrite pour les règles qui font le changement de code. Et donc, Open Rewrite, ils vous proposent soit de la réécriture de code, soit les choses qui peuvent changer. Donc, c'est un peu un outil de règles spécialisé pour dire, pour faire la migration de telle version à telle version, voilà ce que vous devez faire. Donc, si quelqu'un peut écrire les règles, et du coup, elles peuvent être appliquées. Ça, je pense que ça serait bien qu'il y ait une standardisation de l'industrie autour de ça. Serait bien.
Ouais, ouais.
Voilà, on va passer à l'infrastructure. Et pour ceux qui font du Ansible, vous savez que débugger, ben, c'est un peu comme débugger du Ant. C'était jamais trop facile parce que c'était descriptif de l'objectif. Voilà. Du coup, là, il y a un article qui explique les différentes options qu'on peut avoir. Par exemple, Step, qui permet de littéralement passer d'une étape après l'autre. Le problème, c'est comme quand on fait du debug, quand on a passé un cran trop loin, il faut recommencer. Mais ça vous permet d'avoir ça. Il y a du inline logging. Il y a Ansible Lint, qui vous permet de vérifier vos scripts Ansible. Ansible Console, je ne me rappelle plus le détail, mais je crois que c'était intéressant. Ah, bah, c'est un peu Ansible Console, c'est... Pour
c'est un shell dynamique.
Exactement, voilà. C'est un REPL, comme on dit.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Pour Ansible.
Donc, ça vous permet de jouer un peu avec des commandes avant de les mettre dans votre script, ce qui peut être pratique. Après, des fois, il faut un peu l'historique du contexte, donc c'est pas forcément super facile, mais ça peut peut-être bien se poser quand on fait des étapes de mise à jour d'un serveur. On sait qu'il est à telle étape, on joue un peu. Non, je pense que ça peut être pas mal utile. Et puis, il y a le Ansible Debugger que j'ai pas utilisé, mais là, c'est le truc encore plus les mains en cambouis. Voilà, on va passer au cloud avec Apple qui nous protégera pas, on sait pas.
On sait pas au final. Ils sont revenus en arrière.
Tu veux raconter un peu de quoi ils vont nous protéger?
Alors, l'idée de base, donc c'est sorti en juillet ou en août, je crois, pendant l'été, comme d'hab. Ils ont annoncé dans la prochaine version d'iOS, donc la, je suis perdu, pardon, 15, je crois, 15, hein, celle de fin d'année, qu'ils allaient rajouter un nouveau système pour prévenir des problématiques de pédophilie et autres images potentiellement qu'on ne voudrait pas voir partager. Et pour ça, donc, ils ont mis en place tout un tas de systèmes pour pouvoir détecter les images sur les mobiles, donc avec des systèmes on va simplifier de SHA-1 ou autre, mais bon, enfin voilà, en gros, ils font des scans des images et ils ont Neural Hash.
Voilà. Donc c'est pas du SHA-1 parce que les fichiers peuvent changer si vous changez la taille, voilà. Mais le Neural Hash, il est capable de supporter les changements de couleur, les cropping, ce genre de choses.
Et en gros, l'idée pour eux, c'était de dire, bon, on détecte s'il y a des choses un peu qu'il faut pas sur les téléphones, et puis quand vous envoyez les photos sur nos serveurs, donc c'était à ce moment-là, bah si vous en envoyez un peu de trop qui sont classés comme pédophilie ou autre, bah dans ce cas-là, on a le droit de prévenir les autorités, etc. Et notamment aussi pour tout ce qui était les enfants, je crois qu'ils prévoyaient de pouvoir prévenir les enfants qui utilisaient ce genre de fichiers, qui avaient ce genre de fichiers sur leur device via le contrôle.
Alors ça, etc. C'est deux choses, parce qu'en fait ils ont deux fonctionnalités un peu différentes. Donc la première, c'est ça, c'est qu'il y a visiblement il y a une base de données aux US qui a la liste des photos vraiment pas belles.
DBA là-dessus, ça peut être sympa. Hein. Wow. Ouais. Oh là là.
C'était comme on en avait parlé là, des gens de Facebook qui devaient regarder tous les trucs horribles et dire si c'était vraiment Dieu. Un bannière ou pas.
Qui rentre à la maison le soir.
Alors, t'imagines dans le télétravail.
Il y a des boulots.
C'est pour ça qu'il faut pas de télétravail chez Apple, c'est pas possible.
Ouais, tu sais, t'arrives dans ton coin travail et t'as des chocs électriques. Non, bon, enfin, plus sérieusement, donc il y a ça. Et donc ça, c'est effectivement pouvoir alerter que quelqu'un essaie de stocker des images comme ça dans un cloud. Et la différence par rapport à d'autres boîtes comme Google, Dropbox, etc., c'est qu'au lieu de faire ces tests sur le côté serveur, ils veulent les faire côté device, donc côté client. Donc ils ont plein de problèmes à régler, du genre, il faut pas, on va pas mettre les images interdites sur le device. Donc faut un relâche. Il faut pouvoir détecter les changements d'image comme on a dit. Faut pas qu'on sache tout nécessairement. Donc il y a cette notion de limite. Donc si vous allez au-delà de, je sais pas combien d'images, 30 ou, enfin quelque part j'avais lu 30, mais je sais pas ce que c'est la valeur. Et ben c'est là où quelqu'un va être alerté. Et du coup ils ont mis tout un système cryptographique sophistiqué pour que vraiment ils puissent pas savoir eux qu'il y a un truc louche à 29, mais qu'ils le savent à 30 et voilà. Donc, plein de choses. Le deuxième truc dont tu as parlé, c'est un truc qui dit, tiens, on voit un zizi sur cette image, donc je l'ai flouté. Est-ce que tu veux vraiment le voir? Et puis, je vais le dire à tes parents. Donc, ça, c'est une deuxième fonctionnalité qu'ils ont mis dans la même press release, qui est aussi de l'analyse locale d'image. Mais pour le coup, là, c'est avec le parenting.
C'est le contrôle parental, effectivement, à ce niveau-là. C'est cette deuxième fonctionnalité pour permettre d'être informé si l'enfant a accès à des images.
Et alors, pourquoi tout le monde était énervé, sauf Apple, Arnaud?
Déjà, il y a eu... bien sûr, tout le monde s'est mis dessus parce que s'est dit « Oh là là, mais ma privacy, qu'est-ce que vous allez regarder dans mon téléphone? Qu'est-ce que vous allez faire avec... » Là, aujourd'hui, vous mettez ça pour les trucs porno ou pédopornographiques. Peut-être qu'il faut, mais demain, qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas faire la même chose pour mes photos de chiens, de chats, de poissons rouges parce que c'est devenu mal d'avoir un chien, un chat, un poisson rouge ou autre ? Donc il y avait ce problème éthique effectivement de se dire si vous commencez et que vous ouvrez la porte pour ça, demain on saura pas jusqu'où vous irez et vous pourrez faire ça pour pas mal d'autres choses sans le contrôler. Le fait surtout que tout ça soit automatique et que donc il y ait très peu de personnes qui soient impactées, c'est un projet Apple chez Apple avec Apple, mais qu'est-ce qu'on en pense à l'international, au début d'ailleurs je crois qu'ils voulaient là dans la première proposition, je crois que c'était que pour les US, ils devaient le déployer qu'aux US la première version là de ce truc là
en tout cas les images elles viennent que des US, ça c'est sûr.
Ouais, il me semble c'est ça. Oui. Donc tout ça, et puis surtout après tous ceux qui ont commencé à regarder, puisque donc le Neural H s'est documenté, comment que ça fonctionne, etc. Donc ils sont commencés à se poser la question, c'est quoi cet algo, comment ça fonctionne et tout, et ils ont trouvé assez, facilement peut-être pas, ça a semblé facile pour eux, mais ils ont vite prouvé qu'il était capable de prendre une photo de chien et une photo porno et de leur faire donner le même Neural H. Donc à ce niveau-là, ils ont montré que le concept, quel qu'il soit, aujourd'hui est loin d'être parfait et que donc de toute façon, il fallait revoir la copie. Donc entre les problèmes éthiques de savoir où ça va, comment que ça va être géré, jusqu'où ça va aller, qui sont des gros soucis, les aspects techniques, puisqu'effectivement ils ont prouvé que le Neural H était toujours pas au point. Apple a dit ok, on va se donner le temps de réfléchir sur le sujet.
Il y a un autre angle qui est l'angle il y a l'angle politique, qui aide. Là tu vérifies des photos pédopornographique, mais quid de des photos de dissidents et ça. Donc que un pays X ou Y dise non mais moi là tu vas aussi tester et me dire qui regarde ça, et donc c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on peut dire, enfin c'est le début en tout cas, la porte entrouverte à toutes les fenêtres.
Mais ça me rappelle vous savez lorsque Mireille Darc est décédé, donc ça remonte il y a 2 ans je crois, il y a l'écrivain français là, Becbeder, il avait posté sur sa page Facebook une photo de Mireille Darc, une photo hyper connue d'elle dans les années 60, nue mais de côté, donc on voyait un bout de sein, mais bon bref, donc une très très belle photo de Mireille Darc publiée à l'époque, les années 60 en France, et Facebook a bloqué le compte de Becbeder parce que pornographie. Et il y a eu et peu de temps après, je me souviens encore, il y a eu le fameux tableau là, l'origine du monde de Courbet qui est maudit depuis 2 siècles. Et pareil, quelqu'un a mis une photo de cette toile qui est quand même au musée d'Orsay. Enfin, tout le monde peut aller voir l'origine du monde. Et pareil, le compte bloqué parce que pornographique. Bon, c'est vrai que c'est des sujets hyper touchy.
C'est compliqué. Compliqué de le faire en masse, compliqué de le faire automatiquement. Et voilà. Donc, une fois de plus, ils sont repris les coups de bâton et la communauté a dit bah non, ça va pas le faire. Et pour l'instant, ils ont pas dit qu'ils annulaient. Hein. Ils ont dit on va prendre le temps d'y réfléchir. Donc, il faut se méfier, c'est toujours dans les cartons. Ils ont dit, ils ont pas dit bon, allez, on arrête tout et on jette.
Il y a deux stratégies. C'est on va prendre le temps d'y réfléchir. C'est dans le carton, vous inquiétez pas. Et il y a on va prendre le temps d'y réfléchir politique qui est des fois. Bon, ben, ça va revenir, on vous a arrangé deux, trois trucs et puis on revient avec.
C'est ça.
Après, sur le Neural Hash, donc effectivement, on peut faire des collisions. Je me rappelle plus bien, et j'ai pas lu le papier, j'ai lu des transcriptions du papier, mais je crois qu'il y a des choses dans non pas l'implémentation du Neural Hash elle-même, mais dans la façon dont ils utilisent les Neural Hash qui fait que c'est pas forcément possible de savoir quel neural hash correspond à la photo que vous voulez pédopornographique. Donc, il faudrait trouver une photo pédopornographique, faire une photo pas belle et l'envoyer à quelqu'un qui la rajoute dans son iCloud pour qu'il se fasse choper ou un truc comme ça. Voilà, donc il y a des portes, mais c'est assez complexe en fait la façon dont ils ont construit le truc. Voilà, sinon, AWS a 15 ans.
Pareil, comme Kotlin.
5 ans de plus
que 15 ans pour le coup. Moi, je vous dis que 15 ans en fait. Ouais, moi, c'est l'inverse. C'est vrai que bon, après Internet.
À l'époque, c'était en gros juste de la VM avec stockage éphémère. C'était il y a 15 ans.
Ouais.
Ils avaient une région, un seul type d'instance et tout était éphémère. Donc, il n'y avait pas le block storage. Donc, quand l'instance tombait, il y avait
plus. Et on payait à l'heure. Et c'est vrai que quand on vient du monde des serveurs d'app, c'était hyper innovant, quoi. Le serveur d'app, t'achètes une licence, que tu utilises ou pas, il est là, tu vois. Et là, ça te coûte zéro, sauf si tu l'utilises.
Ouais. Et puis c'était la révolution sur le modèle hardware aussi, parce qu'il y avait le problème du coût, mais aussi le problème de l'infrastructure. Ce qu'ils offraient, c'était une infrastructure scalable, mais qui finalement était peu performante. D'une manière générale, c'était pas des machines de guerre hein, à l'époque. Et donc effectivement, ça mettait complètement à mal le concept hein, d'application server, où nous, à l'époque, on avait des serveurs monstrueux. Avec tout dessus en vertical, et là où ils arrivaient avec l'idée, bah non, finalement, ça serait peut-être mieux en horizontal. Donc, c'est ça aussi qui a complètement cassé le modèle qui était là il y a 15 ans, et qui d'ailleurs a été certainement à tuer, hein, les serveurs d'app, etc.
Ils sont pas tout à fait.
En 2006, on était quand même au Pizza Box plus que les Sun Servers, hein, quand même, déjà. Enfin, la bulle 2000, elle est arrivée.
Je me souviens encore un Java One, et ça devait être 2007, 8, 9. Ou à la keynote, t'avais un ordinateur énorme, un Sun machin, 44 milliards de cœurs, une tétrachier de terabytes, etc., etc.
Ils y croyaient encore. Hein.
Ouais. Et c'était vraiment 2007, 8, 9, quoi.
Ils y croyaient. D'ailleurs, Sun était encore là. Oui, c'était encore là, Sun. Pour moi, c'était encore. Effectivement, ça sentait le vent tournait et ça se sentait. Mais on le voyait hein, dans les grands comptes, c'était quand même toujours les trucs. Vous allez avoir une grosse machine, 64 cœurs, machin. Enfin, dans l'époque, il n'y avait pas 64, mais voilà, les trucs énormes.
Et puis, quand tu annonces une machine comme ça, c'est que tu bosses dessus depuis 10 ans. Donc, voilà. C'est ça.
Ouais, après, c'était leur métier aussi. Hein. Ah, ouais. Juste là, le serveur répond pas, mais sur la-rh.com/img/unité au pluriel.pdf, il y a les unités pifométriques, dont la tétrachier, qui est expliquée en détail. Donc, il y en a plein des comme ça, 3 francs 6 sous, une tétrachier, une pincée, un pouliel. Ils nous encouragent à chercher ça. On va passer aux données en parlant de ça. Donc, la guerre de la recherche, le Search War.
Waouh, ça pourrait être un film.
Les clients Elasticsearch, depuis pas longtemps, ne sont plus, enfin, en tout cas dans le upstream, je crois, ne sont plus compatibles avec OpenSearch. Donc, ça détecte, ça dit, mais c'est quoi le serveur à qui je parle et je désactive ou pas? La raison, c'est, mais en même temps, vu qu'OpenSearch, ils se mettent à dériver de Elasticsearch, on peut pas garantir que le client puisse parler effectivement avec le serveur. Du coup, c'est pour protéger. C'est pour protéger.
C'est ça.
Donc, en dessous, évidemment, c'est la suite de la guerre Elastic versus AWS. On ne sait même plus quelle version de l'épisode de Clash.
Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est que le problème, c'est que donc ça c'est en sorte que les clients, donc les nouveaux drives, enfin les nouveaux clients, sont incompatibles avec d'anciennes versions. Alors après, c'est un peu normal parce que leurs clients, d'une manière générale, ils sont à l'inverse, ils sont donc c'est quoi, forward compatible, c'est-à-dire que le client doit toujours être une version inférieure à celle du serveur chez Elastic. Et donc aujourd'hui, voilà.
Après, il y a le client Java qui est très particulier et il y a les autres clients.
Celui de Java.
Le client Java, il embarque le serveur.
Je parle de suite Java, qui lui est en cours de réécriture et tout ça aussi d'ailleurs. Mais lui, il est toujours, il faut avoir une version du client qui est inférieure à celle du serveur. Mais donc, ce qu'il disait, c'est effectivement, la partie, les API clients, etc., là, la partie client maintenant est incompatible. Donc, je ne sais plus, avec les anciennes versions d'Elasticsearch, même les open source, puisque justement, ils n'ont pas les fameux flags qui vont bien pour dire, je suis bien un vrai Elasticsearch et non pas un open source. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils sont encore repris une petite foudre de la part de la communauté qui leur dit, vous me cassez les pieds, machin. Bon.
Donc, OpenSearch va ou a forqué. Oui. Et ils ont promis d'essayer de faire des drivers qui seraient compatibles avec les deux. Voilà, du coup, au-delà du jugement entre les deux sociétés, effectivement, quand on est utilisateur, c'est qu'on veut essayer de garder un peu les portes ouvertes. C'est un peu plus compliqué maintenant. On va passer à l'outillage. Alors, Atomic Jar, qu'est-ce que c'est Atomic Jar?
C'est test container. Ils l'ont renommé, mais c'est test container.
Mais non, ils ne sont pas renommés, non, du tout. Oh là là, mon cher.
La boîte.
C'est le nom de la boîte. Effectivement, test container dont on parle depuis maintenant plusieurs années. Donc, les fondateurs ont créé une société pour le maintenir. Donc, c'est un succès. Voilà, ils ont enfin créé une structure et j'espère qu'ils vont en vivre.
C'est un succès, on va voir, parce qu'il y a un autre sujet plus tard.
Oh là là, chaud.
On va voir si ça sera un succès.
Ouais, mais oui, je vois de quoi tu parles. Mais donc effectivement, donc Test Container qui est devenu très populaire pour tester via des containers les projets tiers, enfin les projets tiers, les intégrations tiers, etc. sur le développement. Voilà, ils ont créé une société, donc Atomic Jar, pour maintenir et faire vivre le projet en plus de l'effort communautaire qui est déjà fait. Voilà. Et donc ils ont fait une version 1.16. C'est la première version qu'ils ont faite sous cette nouvelle égide de la société Atomic Jar, avec une meilleure compatibilité pour les Apple M1, puisque ça, il y avait toujours des soucis via Docker et tout ça. La partie transport, ça fait 36 millions de fois qu'ils la changent, donc la partie transport qu'ils utilisent pour manipuler justement le client, enfin entre le client et le serveur et le container de contrôle, ça fait 36 fois qu'ils changent, donc ils sont passés à HTTP Client 5 au lieu de OKHTTP.
Apache HTTP.
Apache HTTP. Alors, je ne sais pas
parce que OKHTTP. En fait, OKHTTP, la nouvelle version maintenant est implémentée en Kotlin.
Ah, c'est pour ça.
Et ils ne voulaient pas embarquer Kotlin parce qu'après, ça posait question. Ouais, mais on est quelle version de Kotlin Donc, ils se sont dit, Apache HTTP client, ça fait ce qu'on veut. Donc, on passe là-dessus et il y aura moins d'impact pour les utilisateurs.
Au final, on revient tous à Apache. C'est quand même les meilleurs, on ne peut pas dire. Hein, voilà, finalement, on revient sur les classiques. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Meilleure stabilité sur la partie Windows aussi, notamment pour le natif et pour le WSL2. Et puis quelques petites améliorations, il y a le fameux Docker.
Donc, le natif, c'est-à-dire des images Docker, mais qui tournent du Windows. Des images containers qui tournent du Windows. Des containers qui tournent du Windows. Et WSL2, c'est des containers qui tournent du Linux, puisque c'est Windows Subsystem Linux, ou je sais pas quoi.
Et donc le Docker host qui peut enfin être configuré dans le fichier local de la personne et non plus dans le projet. Je crois qu'avant c'était qu'au niveau du projet, ce qui était super chiant. Parce que si il y en a deux qui voulaient faire la même chose, c'était pas possible. Voilà. Ouais.
Et puis ils ont amélioré le support Podman. Donc Podman, c'est un.
T'as écrit Portman, c'est pour ça que je comprenais pas le site.
Oui, je sais, I know, je sais. Mais Podman, parce que j'utilise des claviers qui se croient plus intelligents que moi. Et du coup, Podman, c'est une alternative à Docker client, en gros. Disons du démon Docker pour faire tourner les containers sur une machine. Voilà. Donc, pendant un moment, ils l'avaient pas parce que Docker en fait utilise la notion de daemon alors que Podman utilise la notion d'API et du coup il y a pas de notion de daemon, faut appeler Podman qui en fait exécute des trucs mais il y a pas de daemon qui reste allumé. Du coup test container s'appuyait sur cette notion de daemon et donc je crois visiblement ils ont réussi à améliorer les choses. On en parlera mais c'est important. On parlera un peu après.
Bah, on a qu'à passer GitHub à la news d'après, alors, vu qu'on est en train de parler de.
Oui, on peut passer directement à Docker, dans ce cas-là.
Ouais. À Docker.
Ouais, allez.
Allez, vas-y.
Bah, Docker introduit, on en avait déjà parlé, hein, mais Docker a introduit un système d'abonnement avec Docker Business. Donc, il y a des persos, pro, enterprise, et donc, en gros, il y a un moment donné.
C'était beaucoup sur Docker Hub. Ouais.
Oui, ça
impactait des limites sur Docker Hub.
C'était pour la partie Hub, pour l'instant.
Et oui, c'était pour la partie Hub. Et donc là, c'est pour la partie Docker desktop. Et c'est vrai que quand on dit à certains développeurs, il va falloir payer pour votre outil, on se retrouve avec 1001 articles qui disent il faut plus faire de Docker, il faut faire ça et ça et ça à la place et vous pouvez faire ça et vous pouvez faire ça. Donc il y a pas mal d'articles qui disent Docker c'est terminé, maintenant faites ça. On parle notamment de Podman. Et bien sûr, il y a aussi d'autres articles qui disent, gagner de l'argent avec de l'open source, ça n'a jamais été facile. Là, c'est un moyen. Et on est quand même en train de parler de payer, mais à partir de, à partir de grosses boîtes qui utilisent énormément avec beaucoup d'utilisateurs, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de blogs sur, il faut laisser tomber Docker. Voici la liste des alternatives et d'autres qui disent
faut passer à la caisse.
Il faut passer à la caisse.
Donc, plus précisément, donc le truc le moins cher c'est $5 par mois.
Par mois par développeur.
Par développeur, enfin par installation. Par développeur ou par installation.
C'est par user donc.
Par développeur. Par utilisateur qui utilise donc Docker, si la société fait plus de 250 personnes ou elle fait plus de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires.
C'est ça.
Donc Antonio, t'es safe en tant qu'adepte.
Tu peux continuer gratuit.
Oui, parce que
tu nous racontes pas tout au niveau du pognon que tu fais en tant qu'adepte.
Oui, parce que le Docker personnel reste free quand même.
Voilà, tout à fait.
Voilà, c'est ça, Docker Personal reste free, qui est donc gratuit pour les projets open source, non commerciaux, donc vous ne me voyez pas, mais je mets des guillemets, et non commerciaux, c'est toujours compliqué, parce que chacun a sa définition de commercial. mais en gros...
Est-ce qu'Emmanuel Bernard est payé grâce à Quarkus?
Voilà. Oui. Bon, voilà. Tu es payé pour faire ton projet, tu es dans le commerce, dans l'open source dit commercial. Mais ça pose des problèmes intéressants parce que en tant que projet open source, est-ce que tu appuies ta test suite sur le fait qu'il y a un Docker en local et que les gens sont sous Mac ou Windows ou Linux pour le faire tourner? Est-ce que tu appuies ta test container? Ils doivent se poser des questions parce que si les gens ils peuvent plus installer Docker sur leur machine, ça va, c'est quand même, ça marche quand même bien, test container.
C'est ça.
Du coup, ça ouvre des grosses questions au niveau de l'écosystème et parce que effectivement, il y a des boîtes qui font plein de pognon, etc. Mais on sait bien qu'en termes de procurement et de facilité à l'utilisation, arriver à ce que la boîte paye, enfin que ça soit 0,1 $ ou $50, c'est il y a cette barrière là en fait. Et malgré ce qu'on dit, je crois que sur le hardware, il y a quand même des boîtes qui sont un peu plus, on voit plus de Mac et de choses comme ça, donc il y a peut-être un peu plus de flexibilité. Mais c'est vrai que sur le soft, les outils, payer les outils pour les développeurs. Je sais pas, ça n'a pas.
Ça a jamais trop pris, ce qui est assez étonnant quand même.
Ça a eu pris, et puis quelqu'un disait Microsoft en gros a écrasé Borland et Rational Software en avenant IntelliSense, Visual Studio, Visual Studio classique en gratos, très bon à l'époque, probablement un des meilleurs à l'époque. Ouais. Et ça a dit, les gens ils ont dit non, pourquoi j'ai des trucs gratuits, pourquoi j'ai...
C'était pareil avec Eclipse, Eclipse qui était gratuit,
pareil avec Eclipse,
qui était gratuit. Mais là ouais, donc en tout cas ils jouent une nouvelle carte chez Docker, On va voir si ça suit ou pas, si les gens payent ou pas. Après, c'est toujours le même truc. Ils ont pas vraiment. Ça va être compliqué pour eux de vérifier que tu es dans une boîte de plus de 250 et de 10 millions, etc. Oui. Donc, il y a la théorie et la pratique. Donc, normalement, c'est avant fin septembre, je crois, qu'il faut se mettre en règle. Mais avec une période de transition, ils seront gentils jusqu'à présent, jusqu'à fin d'année. Hein. Mais bon, après, qu'est-ce qui se passera après? Est-ce qu'ils vont mettre des trucs un peu plus compliqués comme contrôle et tout? J'y crois pas.
Alors, je rajouterai dans les show notes un article qui est paru il y a 2-3 jours qui s'appelle How Docker Broke in Half.
Donc, c'est ce que je pensais, oui, je l'ai vu passer. Et il est très bien.
Mis, et on l'a pas mis. Et c'est un gars qui écrit ça, Scott Carey.
Il a interviewé une bonne partie de l'équipe Docker pour essayer de comprendre un peu comment Docker en est arrivé à son échec qui a valu sa séparation en deux entités il y a. Je sais plus maintenant quoi, un an, deux ans, entre, je ne rappelle jamais son nom, Mirantis et Docker, qui restait Docker, et comment ils ont séparé les deux trucs, et bon.
Donc, ça parle de l'histoire, comment Docker est né à Paris, avec Solomon Hikes, etc. Et puis, un fork quand même, hein, une vision différente entre Solomon et son acolyte, j'ai oublié son nom. Enfin, l'article est vraiment pas mal. Est vraiment pas mal. C'est
le CEO, pas son acolyte, mais le mec qui a été mis en CEO. Ça parle donc des gens de Docker, mais il y a aussi des gens de Kubernetes, enfin les Googlers ou ex-Googlers.
Mais ça a dit du mal de Red Hat.
Je sais pas s'il y avait des gens de Red Hat, mais bon, bref, chez nous, je sais que ça a résonné parce qu'on était dans cette action globalement. Ouais. Enfin, moi, j'y étais pas, mais certains étaient beaucoup embarqués dans le « je t'aime, moi non plus » dans la relation avec Docker, la société. Ouais. OK, les différentes manières de déclarer les dépendances dans son projet Gradle.
Tu fais des dépendances avec des chevrons, dependency, artifact ID, group ID et tout ça. Non, c'est pas comme ça. Ah non, c'est pas comme ça.
Oh, il se moque.
Non, enfin, j'ai survolé, mais en gros, c'est un article sur lequel il réexplique déjà, bon, en quoi Gradle est bien supérieur à Maven, et ça, faut en convenir, hein, sur la partie déclaration de dépendance, là où c'est très simplifié sur Maven, avec juste des notions de scope, et il y en a deux ou trois qui traînent, et puis des trucs un peu obscurs sur comment que c'est transitif ou pas transitif. Avec Gradle, vous pouvez tout contrôler. Ils ont énormément mis en avant ces derniers temps la partie API versus implémentation, ce qui était aussi quelque chose qui manque énormément dans Maven, de manière à pouvoir dire, je veux, je sais pas, j'ai un projet qui dépend d'une API, donc ça, c'est obligatoire. L'implémentation, pour le coup, c'est optionnel. Si tu ramènes autre chose, ça me gêne pas. Donc voilà, donc il explique un peu toutes ces notions-là, donc les différents types de déclarations et de scopes qu'il y a chez Gradle, les notions de configuration. Donc ça, on va dire que c'est un peu comme le dependency management dans Maven, un petit peu. Hein. Donc on va essayer d'avoir un groupe cohérent et qu'on partage. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre après j'ai plutôt noté les run-only, les compile-only, donc c'est là où ils sont beaucoup plus la granularité est beaucoup plus fine que chez Maven, pour pouvoir dire justement par exemple il y a des trucs que nous on peut pas du tout faire avec Maven, là, les trois quarts on peut pas les faire uniquement sur par exemple du compile-only on sait pas faire par exemple compile only, dire qu'une dépendance elle est que à la compile mais qu'elle est pas dans le runtime, ben on sait pas faire par exemple. Donc voilà, c'est là où il y a toutes ces explications des différents scopes et voilà. Donc moi je trouvais ça intéressant pour ceux qui veulent comprendre.
Est-ce que tu sais ce que ça veut dire compile only API?
Donc compile only.
Parce que je comprends API implémentation, runtime only, compile only, ouais. Mais compile only API, il faudrait que je lise l'article. Ben, c'est un truc, ça me.
API, c'est que c'est mandatory parce que compile-only API, c'est justement le fait que c'est une dépendance qui est juste à la compile mais qui est obligatoire, c'est-à-dire qu'elle peut pas être remplacée. Si tu as un autre projet qui t'utilise, ta compile-only API, elle sera obligatoirement là. Tu peux pas la remplacer. Alors qu'une compile-only, une compile-only, ça serait con, mais une runtime-only, par exemple. Tu peux lui dire, non, je veux pas utiliser, je sais pas moi, l'implémentation de JPA, Voilà, donc je veux l'API, je dépend de mon API JPA, je fais un projet qui dépend de l'API JPA. Donc je dis qu'effectivement l'API JPA c'est obligatoire, tu pourras pas me remplacer, je tourne pas avec une autre avec autre chose. Par contre, bah je fonctionne par défaut avec Hibernate parce que j'adore Hibernate. Mais par contre mes consommateurs, eux je peux leur laisser le choix de remplacer Hibernate par autre chose. Mais par contre, bah non, JPA, tu me le gardes. Voilà. Donc tu pourras fournir autre chose. Donc c'est tous ces systèmes-là qui sont vachement plus ouverts et beaucoup plus configurables que ce qu'on peut faire avec du Maven. Donc tu peux extraire, dire exactement ce que tu laisses aux autres, à tes consommateurs, changer ou pas changer en fonction de ces scopes.
D'accord. OK. Alors on va passer à la Alors je vais mélanger méthodologie, loi, société, organisation.
C'est compliqué là. Il faut que je fasse deux tweets maintenant.
Alors, le premier, c'est un article de quelqu'un qui est du côté non-Google
De la force.
C'est pas Google Search, mais c'était... Alors, je sais plus, c'est pas dans la pub. Bon, enfin, bref, peu importe. Il est dans un des marchés dans lequel est Google, mais qui est pas là à rechercher. Donc, il explique que voilà, Google utilise son moteur de recherche pour, disons, imposer ses produits. Et donc, on appelle ça des pratiques anticoncurrentielles dans plein de lois nationales. Par exemple, Google Flight, c'était un exemple. Il y avait Google Shopping pendant un moment. Et en fait, il est dans un de ces trucs, et puis il discute avec des gens de Google pour qui il a de l'estime par ailleurs. Et puis les Googlers, en fait, c'est comme s'ils comprenaient pas, ils trouvaient ça absurde qu'il explique que c'est un truc anti-concurrentiel. Et du coup, il explique, enfin, il essaie de son point de vue de démonter un peu ça. Donc, je vous encourage à le lire et à faire votre propre opinion, mais il pointe une étude qui, disputée par Google d'ailleurs. Mais qui montre que 41% de ce qui est affiché dans ces... Enfin, quand Google, on fait une recherche, en général, c'est pour cliquer sur le premier lien ou le deuxième... Enfin, c'est le premier lien après la pub ou le deuxième lien ou le troisième lien. Puis, cliquer sur la deuxième page, c'est déjà un échec en général. Et en fait, je sais pas si vous avez noté, mais Google, de plus en plus, il y a des pré-réponses, en fait. Ça embarque une partie Wikipédia, ça embarque une partie de IMDB, ça... Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle des zéro clics. En fait, on a déjà la réponse, donc on ne va pas aller cliquer sur la page Wikipédia ou la page IMDB, etc. Du coup, il y a ces gens-là, s'ils ont de la pub ou un revenu qui est basé sur le nombre de clics, ben, ils n'ont pas cette info. Donc, on reste dans l'univers Google. Il explique que Google, en fait, ils ont des formations pour parler non pas de dominance, mais de succès, pas de barrière à l'entrée, mais de marché, pas de effet réseau, mais de je sais plus quoi, parce que c'est des mots qui alertent si on se tombe dans un procès antitrust, anticoncurrentiel. Et que bah, les avocats, en général, ils font ce qu'on appelle le discovery process aux États-Unis. Et du coup, on va dire, bah, je veux tel mot-clé des boîtes de tous les dirigeants ou voilà, ce genre de choses. Et du coup, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est un peu le Orwell, le
Newspeak.
Comment ça s'appelait
Newspeak, c'était le nouvel anglais avec où ils avaient banni des tas de mots, des tas de verbes.
Des mots. Ouais. Et avec l'idée que les concepts mêmes étaient bannis puisqu'on n'avait plus de mots pour les exprimer.
Et donc ils appellent ça, le Google Speak, ce qui est très très bon.
Voilà,
en se basant sur le New Speak, et il fait le parallèle avec le Google Speak où les Googlers, bah il y a des mots qu'ils n'utilisent plus en fait.
Ouais. Donc pareil, on n'utilise pas marketer, on parle de préférence utilisateur. Donc, je suis pas dominant, je suis très préféré par les utilisateurs. Voilà, on le voit d'ailleurs dans le procès Apple versus Epic, qui a eu aussi un discovery process qui fait que les choses viennent dans le public, dans le domaine public, que Apple, en l'occurrence, n'était pas très gardé dans leur com interne, genre, ouais, mais il faut absolument qu'on garde ce truc-là, sinon on va se faire voler tous nos utilisateurs par machin, donc ils en parlaient pour le implémenter ou pas iMessage pour Android, voilà, il y a un certain nombre de choses autour comme ça. Et donc, voilà, donc Google fait des formations de, je sais pas si c'est tous ses utilisateurs ou les execs ou peu importe, mais pour éviter ça. Donc, c'est assez naturel pour une boîte de se protéger de ces choses-là. Et en fait, pour moi, c'est une réaction des boîtes qui disent, bah, si on chope un procès, on est super mal, donc Voilà, il y a toujours, si vous avez des trucs sensibles, vous n'avez pas envoyé un email, vous n'allez pas envoyer un tweet non plus, vous allez parler au téléphone, vous n'allez pas forcément enregistrer, voilà, tout ça, c'est des choses qui existent depuis la nuit des temps un peu dans les boîtes, parce que quand il y a des traces, elles peuvent ressortir ou elles ressortent. Voilà, et donc à un moment, le congrès leur disait, mais c'est quoi votre analyse de marché sur vos marchés dominants? Et Google disait, non, mais nous, on fait pas d'analyse de marché. voilà, ah pardon, je vous ai dit 41%. Ah oui, non, c'est une étude montre, je vous reviens sur l'étude dont je parlais, c'est 65% pour eux des recherches n'entraînent pas de clics vers un site externe, valeur réfutée par Google. Et une autre étude montre que Google offre 41% de sa première page à ses propres propriétés. La pub, les autres applis, les trucs déjà rentrés avec les réponses déjà. Voilà, c'est ça qui s'entraîne. Après, c'est leur page. Voilà, donc pour moi, c'est intéressant comme article, pas tant pour taper sur Google nécessairement, mais pour la réaction à la judiciarisation de la vie des entreprises, en fait. Comment on met des garde-fous, mais qui, en fait, au final, peuvent entraîner encore plus de dérives, les conséquences inattendues, quoi. Voilà, ensuite, Matt Hazey a quitté AWS, donc c'est quelqu'un qui tourne autour de l'open source, et qui explique comment il passe à autre chose, mais il explique un peu comment AWS est fait, donc c'est plein de petites équipes, il n'y a pas forcément beaucoup de décisions top-down, à part un truc qui s'appelle, je sais plus quoi, mais qui est un espèce de le mantra de Amazon, la 12 ou 15 règles, les leadership principles. Voilà. Du coup, il n'y a pas de top-down, genre vous allez travailler bien avec l'open source. Il y a peut-être des équipes qui vont dire ça et d'autres pas du tout. Voilà. Et puis, dans les leadership principles, il y a des choses intéressantes qui sont, il faut pouvoir être en contrôle pour être totalement aider le client et être très réactif au niveau du client. Donc là, on dit, ouais, mais si on participe à une communauté open source, il faut faire des plus 1 et des moins 1 parce que Apache, c'est bien, mais voilà, plus 1, moins 1. On n'est pas en contrôle. Du coup, on est à l'encontre des leadership principles. Pareil, ils ont cette notion de la 2 pizza box. Alors, il faut les grosses pizzas, mais c'est, mettons, des équipes de 12. Donc, si tu as une équipe de 12 qui va aider sur l'open source face à 200 autres équipes, on voit bien que c'est pas un Amazon, mais des dizaines de différents Amazon qu'on peut avoir. Voilà. Bon, après, il dit, ouais, on a fait des progrès quand même malgré tout dès que j'ai réussi à rentrer dans ce Amazon speech. Voilà. Et puis un autre article d'un quelqu'un qui s'est mis à l'open source pour c'était un architecte, développeur, il voulait faire un peu d'autres choses, et donc c'est son retour d'expérience personnelle sur comment se lancer.
Pourquoi l'open source, par où je commence, qu'est-ce que je fais, et puis je pense que c'est peut-être le problème qu'on a tous eu. Moi je fais ça 10 minutes par semaine, les autres ils se sont payés pour faire ça 12 heures par jour, donc qui suis-je? Pas mal l'article, ouais.
Ouais, perso, ça m'a bien parlé. C'était vraiment comme ça que j'ai démarré aussi. C'était vraiment la même chose pour moi avec, tu te retrouves architecte, donc tu fais plein de choses intéressantes sur des nouvelles techno et tout, mais tu codes plus vraiment, donc t'as plus cette capacité à se dire t'as un produit sur lequel tu contribues, t'es plutôt généralement en transverse et tout, donc t'as plus cette façon de travailler et de livrer quelque chose. Et l'open source te permet de le faire, mais là il explique effectivement son cheminement qui est personnel, hein, mais du choix du projet, quel type de projet, quels ont été ses critères pour choisir un projet. Bon, il a fini sur un plugin Jenkins, merci beaucoup. Mais voilà, c'est assez intéressant.
C'était intéressant parce qu'au final, il y avait quand même une connexion avec ce qu'il faisait.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'être complètement hors sol, c'est
et moi, je sais que ça avait été le même choix pour Maven et Jenkins quand je l'ai fait. C'est compliqué des fois de choisir un projet, mais j'avais envie d'avoir quelque chose qui se lie un peu avec mon boulot. Et pourtant, quand je bossais sur Maven d'ailleurs à l'époque, je bossais sur des sujets qui n'étaient pas utilisés au boulot. Mais voilà, c'était juste qu'au moins ça restait lié comme lui. Donc au moins ça permet de suivre, de tester aussi, etc. Enfin voilà. Donc un retour intéressant pour ceux qui se posent la question peut-être un jour de le faire ou pas, de faire de l'open source. Voilà, il y a un retour d'expérience qui peut vous intéresser.
Yes. Alors, la rubrique débutant.
Attends, il y a un outil
de l'épisode.
J'ai mis un outil de l'épisode, ouais. Là, j'ai rajouté un outil de l'épisode. Vous vous souvenez, à l'époque, c'était les mitaines. d'Emmanuel Bernard et les brosses à cheveux d'Antonio, et ben là on a un nouvel outil. J'ai commandé un vélo bureau.
Ouais, j'ai reçu, je sais pas pourquoi, et il est arrivé chez moi.
J'ai commandé un vélo bureau. Donc, vous avez des vélos d'appartement. Ouais. Et là, c'est un vélo bureau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, poignée, quoi. Il n'y a pas de poignée vélo. Mais vous avez une tablette. Une tablette pour y mettre l'ordi. Elle peut se pencher, etc., etc. Donc, j'ai reçu ça ce matin. Moi, c'est vraiment pour pédaler. Donc, vous avez plein de vélos différents, des tout petits que vous mettez sous le bureau et tout. Moi, c'était vraiment pour faire de l'exercice parce que je cours pas mal et je me suis blessé, donc je peux plus courir. Donc, voilà, c'était vraiment un vélo pour faire de l'exercice et pas juste des petites pédales sous le bureau. Donc, j'ai reçu ça hier, je l'ai monté, j'ai commencé ce matin, j'ai fait 1h15. Et je me suis dit que dans 4-6 mois, j'aimerais bien écrire un blog sur est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que je peux vraiment bosser avec, est-ce que je peux vraiment taper du code. Vu ce que j'ai transpiré ce matin, je suis pas sûr que le clavier reste super sec, donc à voir. Ce matin, j'ai juste lu quelques news avec. Mais voilà, je vais me lancer là-dedans, essayer de pédaler 3-4 fois par semaine. Et pas que 10 minutes, hein, vraiment, j'avais mis un t-shirt et tout.
J'ai toi, pris t'as le bike après, hein. Desk.
Voilà, le fit desk. Oui,
non, y a pas
oui desk. Le bike desk, pardon. Mm. Ouais. Donc voilà, j'ai même pris une douche après, hein, c'était pas juste 10 minutes. Donc voilà, j'ai envie de voir si je peux.
Il y a le,
si
pareil, la douche desk. La douche desk.
Et promis, j'écrirai un petit blog sur maintenant depuis le Covid, comme tout le monde bosse à la maison, est-ce que ça vaut le coup de prendre un truc comme ça.
Voilà. Je suis étonné, mais je trouve pas promis ça si cher fait. Que ça pour le coup.
Non, c'était pas très cher.
$300.
Ouais, $300. Enfin, quand je vois justement, je regardais moi les tapis de marche ou les choses comme ça pour parce que voilà, j'aurais aussi envie de faire un peu plus d'exercice que ce que je fais. Mais comme toi, j'ai des gros doutes sur ma capacité à faire de l'exercice et faire autre chose en même temps, enfin si sur des activités de lire ou des fois d'être en meeting, un truc comme ça, oui je peux le faire, mais après faire des activités qui demandent un peu plus de concentration, je suis pas persuadé de réussir, ce qui m'ennuie un peu. Mais effectivement, quand je vois que c'est 300 €, c'est pas, enfin ça reste pas donné, mais c'est à comparer des trucs de marche et tout.
Je vais me mettre au jeu là, je vous ferai un feedback comme dit Arnaud, pour un meeting ça peut être pas mal, sauf si on transpire beaucoup, pour lire c'est très très bien, pour regarder une conf pas mal, est-ce que je peux taper du code avec, je vous le dirai dans 4 ou 6 mois, promis.
C'est pas trop bruyant ? C'est pas trop bruyant le...
Non, par contre, c'est super. Et puis, en fait, il split, donc il prend pas trop de place, un peu quand même, mais pas trop. Il s'adapte bien, donc au début, on monte un peu la réglette, on descend le truc, on pousse un peu le bidule, mais quand on est bien, voilà. Une heure et quart ce matin, à suivre.
Ouais. On donne rendez-vous.
C'était 300 balles l'heure, en fait.
Pour l'instant, c'est ça. Va-t-il le rentabiliser?
Je fais plus, c'est nul, j'arrête.
Alors, rubrique débutant. Alors, c'est débutant, mais il faut s'accrocher, c'est intéressant. Ouais.
Risque versus Sisk.
Donc, Sisk et Risk, c'est des approches philosophiques de design de processeurs. Donc CISC, c'est ce qu'on avait historiquement, qui s'appelle Complex Instruction Set CPU, j'imagine. C'est une bonne question, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et RISC, c'est Reduced Instruction Set. Donc il y a moins d'opérations, il y en a un autre, il y en a plus. Mais pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, c'était intéressant, parce qu'historiquement, la mémoire était chère, le temps CPU était cher aussi, et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on s'est dit vu que la mémoire est chère et lente d'ailleurs pour faire des allers-retours avec la mémoire et que le temps CPU c'est aussi long, on va faire des CPU qui ont plein d'opérations, des additions, des multiplications, des racines cubiques, des shift left, alors tout ça c'est des trucs de base, mais les racines cubiques ou du SHA-1 ou peu importe, des des instructions très compliquées. Comme ça, en une opération, on envoie l'info, elle est traitée, ça ressort et c'est bien. Risque, on le paye en mémoire, c'est-à-dire qu'on a moins d'opérations, ce qui fait que pour faire la même opération, par exemple un Sharon, ben on va faire plus d'instructions. Donc on va le payer en mémoire et en nombre d'instructions, donc en nombre de cycles d'horloge aussi. Sauf que ça simplifie la notion de chaîne de travail, donc d'exécuter des opérations à la chaîne et de les enchaîner. Parce que on a, je crois que dans le CISC, les instructions sont de taille variable, donc il y a un processus de, enfin il y a un temps de décodage et puis le temps dans le pipeline qui peut être différent. Alors que dans RISC, les instructions sont de taille fixe, ce qui fait qu'on peut les enchaîner, les mettre dans le pipeline à la chaîne sans avoir à gérer ce truc-là. Voilà, donc on a plus d'opérations, mais qu'on peut mieux pipeliner. Du coup, on va en nombre d'opérations par tempo d'horloge, on est plus efficace au niveau risque. Du coup, ça peut se compenser avec des instructions de plus haut niveau, au niveau CISC. Le risque, donc vu qu'il a plus de choses à faire, ce qui coûte cher, c'est d'aller en mémoire le L1 cache, par exemple, les revenir, etc. Donc, pour résoudre ce problème, on a ce qu'on appelle des registers dans les CPU qui sont des espaces mémoire, mais à l'intérieur du CPU lui-même, sur lequel, en fait, une opération, ça dit, tu prends le register 1, tu prends le register 2, tu fais une addition, tu mets ça dans le register 3, ou tu le remets dans le register 1. Enfin, peu importe, il y a un certain nombre d'opérations comme ça. Risque, pour compenser le fait qu'ils avaient moins d'opérations, ils ont plus de registers, puisqu'on compense les opérations, le nombre d'opérations par plus de mémoire pour les faire un peu en parallèle, entre guillemets. Et puis, petit à petit, le temps est venu, la mémoire, c'est moins cher, etc. Donc, en fait, risque est, entre guillemets, plus adapté à des approches, disons, à des contraintes économiques modernes, mais technico-économiques modernes. Voilà. Le CISC fait du hardware hyper-threading, donc on en a beaucoup entendu parler quand on s'est mis à avoir des CPU Intel qui faisaient du hyper-threading, c'est-à-dire ils avaient des corps physiques, mais ils étaient capables d'avoir deux corps virtuels par corps physique quand tout allait bien. Du coup, on gagnait 30%. Ça, c'est des trucs qui sont pas techniquement possibles dans le RISC, mais qui sont en général pas faits, je crois. Voilà. Et RISC, philosophiquement, il fait travailler les compilateurs beaucoup, puisqu'il y a peu d'instructions, donc il y a pour dire, tiens, je veux faire un SHA-1, ça veut dire qu'il faut que le compilateur, il construise toute cette instruction pour l'appliquer en opération RISC. Alors que dans le CISC, il y a déjà l'instruction qui va bien. Et par contre, et ça, c'est bien quand on code en assembleur à la mano, parce qu'on a, on a notre liste d'opérations, et puis on dit, je veux faire ça, donc je le fais, et du coup, on a moins de code à maintenir. Mais quand on est un développeur de compilateur, on essaie de généraliser, etc. Et du coup, avoir moins d'opérations, c'est paradoxalement plus simple. Et on a juste à appliquer, mon SHA-1, je vais l'appliquer avec ces opérations-là. Voilà, donc le risque est aussi quelque chose qui est plus naturellement optimisable en pratique que le CISC au niveau des compilateurs. Il y avait, je crois que l'article parlait de que finalement 80% des opérations CISC étaient peu ou pas utilisées par les compilateurs en fonction de leur complexité. On le sait notamment que la JVM, en fonction si on utilise tel processeur Intel à tel truc, ils sont capables d'utiliser des opérations spécifiques dans tel cas et pas d'autres. Mais tout ça, c'est pas mal de taf, évidemment. Et donc, des fois, c'est pas fait sur bord. On le fera sur Spark plus tard ou on fera sur tel autre truc plus tard. Voilà. Donc ça, c'est un peu ces deux philosophies. Donc c'est un peu ardu pour un débutant. C'est un truc qu'on est censé connaître, entre guillemets, mais c'est une piqûre de rappel intéressante entre le CISC et le RISC. Donc CISC, c'est plutôt les gens de type Intel, AMD. RISC, c'est plutôt ARM, ce genre de processeur. Ça, c'est dans les deux philosophies. Après, les choses sont un peu floues parce que finalement, les processeurs Intel, ils ont du microcode pour coder les opérations complexes en opérations plus simples sur le hardware. Du coup, il y a quand même des différences et c'est ce que l'article essaie de faire ressortir. Voilà, au niveau conférence, nous avons DevOps France, incessamment sous peu maintenant.
Oui, les grosses news, c'est qu'il n'y aura pas de DevOps Belgique en 2021. Donc, Stéphane Jensen, ouais. Papa de DevOps, a tardé. Il savait pas.
Oh, j'ai revu la vidéo de James Gosling qui va chez le protologue.
Magnifique cette vidéo. Protologue. Comme quoi, James Gosling, en plus, il a de l'humour.
Et un quasi.
Sosie.
Un quasi. Et un quasi sosie en Belgique. Parce que c'est pas lui qui l'a fait.
Un quasi sosie belge. Donc voilà, il n'y aura pas de DevOps Belgique en 2021, donc normalement c'est au mois de novembre. C'est donc la deuxième année qu'il n'y a pas de DevOps Belgique. J'ai pas trop discuté avec Stéphane, mais je pense que comme sa conférence est plus internationale que nous, il a énormément de speakers qui viennent du monde entier, des participants aussi qui viennent du monde entier. C'est là qu'on se dit...
C'est le début de la phase de grippe potentielle.
Ouais, c'est là qu'on se dit que DevOps France, qui fait essentiellement du français, et la Pologne aussi, hein, il y a eu DevOps Pologne là au mois d'août, ils font énormément de Polonais, donc ils ont énormément de locaux, ils ont toute une communauté qui est plus Europe de l'Est, qu'on a moins ici. DevOps France s'en sort plutôt bien puisque on aura un DevOps France dans quelques semaines et DevOps Pologne aussi. Il y a DevOps UK qui est confirmé en moitié hybride, moitié présentiel. Et le Maroc, je suis pas sûr, mais je crois que le Maroc a le même souci que la Belgique, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de speakers internationaux. Et les internationaux, si vous faites partie des Microsoft, Google, Apple, Facebook, toutes ces grosses boîtes là, ils ont banni les voyages au moins jusqu'à la fin de l'année.
Et puis ça reste compliqué, même si vous vouliez le faire en termes de vacances, etc. C'est compliqué parce que les règles actuelles entre tous les pays diffèrent, et puis il y a toujours potentiellement des périodes de quarantaine, etc. Donc ça reste, les déplacements entre les pays restent très compliqués. Donc c'est vrai que les événements locaux, nous on s'en sort bien en France, parce qu'effectivement on aura 95% de contenu français. Je crois qu'on a 3-4 sessions en anglais, dont une très bonne session justement d'un Polonais de Piotr qui vient nous parler de Java 17, une université. Mais ouais, c'est très rare, on aura très très peu.
Si tu veux, on fait les casse-codeurs en anglais. Hein.
Ou pas.
Là, il y aura les casse-codeurs à DevOps France. Donc,
et il y aura les casse-codeurs en fermeture de DevOps France, comme chaque année finalement. On avait
sans bière par contre, parce qu'on n'a pas le droit.
Chacun dans sa vie. Voilà.
Bon, pizza peut-être ? Non, non plus. Voilà, c'est dommage.
Non plus.
Ah ouais, non.
Et qu'est-ce qui se passe si on a une sabia ?
Je pense que nous, sur scène, je vais trouver un moyen de faire genre... je vais...
Il y a moyen de moyenner. Voilà.
Ça me fait penser à Jerry Springer, vous savez, ces émissions où il disait... tu vois, comment... C'est toujours les drames de famille, et puis un mec était hyper en rage contre son père, et puis il dit « Ah, ben on a retrouvé ton père », et paf, ça se tabassait sur le plateau.
Non, l'idée, c'est juste de boire une bière, pas se taper dessus.
En tout cas, mettez votre masque.
C'est obligatoire. Alors, par contre, oui, ça sera masque obligatoire.
Ah, du coup, on va parler avec un masque ?
Non, les speakers, non, parce qu'ils ont reculé, les chaises. Donc, on peut postillonner jusqu'à 5 ou 6 mètres. Après, on n'a pas le droit de postillonner trop loin, mais on a le droit. Voilà.
Ok, d'accord. Et puis, il y a Emmanuel Demey qui nous a fait un podcast sur DevFest Lille, que l'on va écouter.
Bonjour à tous. Emmanuel Demey du GDG Lille. Je vous fais ce petit podcast pour indiquer que le DevFest Lille 2021 aura lieu le 19 novembre, en présentiel, à Lille, on espère. Le CFP est ouvert jusqu'à mi-septembre, donc n'hésitez pas à proposer un sujet si vous en avez, puis si vous avez envie de venir sur Lille. Les places sont en vente également, n'hésitez pas à aller sur notre site pour avoir toutes ces informations. Il y a également une autre conférence, j'en profite, les 7 et 8 octobre, en visio, cette fois-ci, Cloud Nord. Donc si vous êtes plus orienté cloud, n'hésitez pas à participer à cette conférence, la billetterie est ouverte ou va bientôt ouvrir. Merci beaucoup et encore merci pour le podcast. À bientôt.
Voilà, merci Emmanuel.
Emmanuel.
Et puis là, c'est passé, je crois, mais il y avait Jackson.
Ah oui, c'est vrai, c'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui. C'est
oui. À La Rochelle.
En présentiel aussi. Oui.
En présentiel aussi.
En présentiel aussi. Ah ouais, j'ai vu les.
Présentiel arrive petit à petit. On croise les doigts.
Ouais, moi, je suis allé au bureau pour la première fois depuis le début. Bon, c'est assez particulier parce qu'en gros, tu peux pas vraiment te voir trop.
Tu peux y aller, mais tu restes ensemble, à distance.
Mais tu peux y seul. Aller quand même. Oui, c'est assez curieux, mais ça fait quand même du bien quand même. On voit, c'est assez paradoxal. C'est les débuts, quoi.
C'est ça.
Puis tu te rappelles, tu te dis, mais on était à quel étage? Et puis, question que t'as comme ça, genre.
Bonjour, vous êtes sur Rack.
Moi, je suis parti de chez moi. J'avais juste oublié mes clés, mes clés de secours de voiture, ma carte bleue. Et là, tu dis, heureusement qu'on a des téléphones qui te permettent de payer maintenant parce que la cantine est fermée. Donc, comment tu bouffes? Enfin, bref, c'était l'aventure. Ouais, voilà. Bah, merci à tous de nous avoir suivis. À la prochaine. Dans un mois, il y a des interviews qui se préparent peut-être autour de GraalVM, notamment. D'ailleurs, petit rappel à mes collaborateurs. Interview.
Vous n'avez pas.
Voilà. Allez, salut à tous.
À bientôt.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthemes.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.